Africa. Le journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa Radio.
Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre émission, bienvenue dans le journal des auditeurs. L'émission, vous avez la parole sur Africa Radio chaque jour du lundi au vendredi. Aujourd'hui, dans le journal des auditeurs, nous parlons du regain de Boko Haram. Alors qu'on le croyait en perte de vitesse, Boko Haram a multiplié les attaques au Nigeria, mais aussi et surtout à l'extrême nord du Cameroun. Dans la nuit de samedi à dimanche, 4 personnes ont été tuées près du lac Tchad et plusieurs autres blessées. Alors comment expliquer le regain de ce groupe terroriste? La force multinationale mixte a-t-elle montré ses limites? Nous en parlerons dans quelques instants avec notre invité, Léon Kongou. Il est docteur en sciences politiques. Je vous donne le numéro WhatsApp d'Africa Radio pour nous envoyer des messages, nous faire part de vos commentaires. C'est le 33 7 66 19 77 69. 33 7 66 19 77 69. Avant de parler de Boko Haram, voici la séquence incontournable du journal des auditeurs, le répondeur d'Africa Radio.
Africa. Vous êtes sur le répondeur d'Africa Radio. Après le bip, c'est à vous.
Je suis Roland, j'espère que vous allez bien. J'appelle ce matin pour laisser un message pour le Paris Saint-Germain. Je suis supporter du Paris Saint-Germain depuis El Magnifico et Georges Weah, c'est-à-dire Ginola et tous ceux qui jouent avec eux. Et aujourd'hui, ce week-end, nous avons vu la défaite du Paris Saint-Germain face à Rennes. L'ogre qui s'est fait manger, vous savez. La vérité du sport, c'est toujours sur le terrain. Et la défaite du Paris Saint-Germain était déjà amorcée depuis quelques jours, voire même quelques mois. Voilà, je suis supporter du Paris Saint-Germain, déçu de la défaite de mon équipe, mais content pour l'équipe de Rennes, surtout content pour Atem Ben Arfa, qui est un footballeur que j'aime beaucoup et qui a démontré qu'il n'est jamais trop tard quand on veut y arriver. Certes, c'est vrai qu'il a peut-être pas fait de bons choix, toujours fait de bons choix du moins pour sa carrière, mais il est l'un des footballeurs français que je connaisse qui a démontré ici que quand on travaille, on y arrive. À deux reprises, en passant par Rennes et en passant par à Nice, il a démontré que le talent est là et qu'avec du travail, on y arrive. Aujourd'hui, il est récompensé et le Paris Saint-Germain est aussi récompensé dans notre sens pour la mauvaise gestion. Et petit conseil pour Atem Ben Arfa, qu'il reste à Rennes, qu'il finisse sa carrière tranquillement, voilà.
Bonjour aux auditeurs de Africa Radio. J'interviens encore sur la Guinée pour essayer d'attirer l'attention sur le risque de massacre comme le 28 septembre. Monsieur Alpha Condé veut faire un coup d'État sous forme de référendum selon lui, car imaginez-vous, il voudrait imposer une constitution alors que la constitution actuelle n'a aucun défaut. Et en fait, cette constitution n'a été écrite par personne de la société civile ni des partis politiques. Donc, il a fait une constitution apparemment avec des amis dans une salle obscure quelque part. Donc, personne n'a été impliqué, ni la société civile ni les partis politiques. Et il veut faire croire qu'il veut faire passer un référendum alors qu'il est légalement impossible. Et finalement, il veut utiliser sa milice pour s'imposer de force. Donc, il risque d'avoir certainement une résistance et probablement des massacres encore une fois. Donc, il est temps vraiment que le pays international intervienne en Guinée. Voilà.
Bonjour, Africa Radio, c'est M. Djabi. Je vais parler aujourd'hui de Jacques Malian, homme et femme. Le régime Ibeka est en train d'intimider les hommes et les femmes. Il y a des gens qui sont au Mali tous les jours, qui mangent de l'argent, que les Maliens n'arrivent même pas à rentrer chez nous à cause des corrompus. Avec un régime corrompu, son premier ministre, Boubou Cissé, n'arrive même pas à trouver quelqu'un d'abord pour qu'il travaille pour avec ce régime. Qui va travailler avec ce régime? Personne n'en veut aujourd'hui. Je demande aux Maliens de se préparer prochainement. Il y aura coup d'État. Ibeka, il va partir. Il finira pas son mandat. Merci, Abi de Jiria. C'est M. Djabi.
Oui, je suis Touré. J'appelle pour signaler que Boko Haram ne meurt jamais. Ils se mettent en sommeil pour se réveiller frapper très fort. Donc, les présidents du Cameroun, du Niger, de tout ce pays-là, n'ont pas fait très, très, très attention, surtout le Nigeria. Merci et bon courage à eux.
Ah. Africa. Prenez la parole dans le JDA sur Africa Radio.
Merci à tous pour vos messages. Chose promise, chose due. Je n'avais pas pu lire les messages que vous nous avez envoyés vendredi durant la libre antenne sur le WhatsApp de l'émission. Séance donc de rattrapage. Voici le numéro WhatsApp, 1-33-7-66-19-77-69. Il y avait Gino qui nous avait envoyé un message depuis les États-Unis. Il nous dit « Je déplore vraiment la situation socio-économique au Tchad. La population vit une misère sous le régime dictatorial de Idriss Déby. Il a mis en prison des jeunes qui ont voulu manifester contre la vie chère. Il interdit aux jeunes de moins de 45 ans de participer à la gestion politique du pays alors qu'il nomme les membres de sa propre famille de moins de 25 ans pour gérer les grandes institutions financières du pays. » Voilà, c'était le coup de gueule de Gino depuis les États-Unis sur le Tchad. Un autre message que vous nous avez envoyé vendredi, je pense que c'est Souleymane qui évoquait Laurent Gbagbo. Il dit « C'est Laurent Gbagbo qui a signé le traité de la Cour pénale internationale au début des années 2000. » Et puis, ça c'est un nouveau message, c'est rien à voir avec l'émission. Voilà, merci à tous pour vos messages. Aujourd'hui, dans le journal des auditeurs, on parle du regain de Boko Haram au nord du Cameroun et dans l'ensemble de la sous-région. Un regain qui intervient alors que plusieurs ONG, depuis plusieurs semaines, dénoncent les atteintes aux droits humains commises par l'armée nigériane. Alors, qu'en pensez-vous? Comment expliquer cette résurgence de Boko Haram? La solution militaire est-elle la bonne? Nous en parlons tout de suite avec Léon Kungu, docteur en sciences politiques. Léon Kungu, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, Léon. Alors, des membres du groupe djihadiste nigérian Boko Haram ont tué au moins 4 personnes et gravement blessé 4 autres au cours d'une attaque à Kofia. C'est une île située près du lac Tchad ce week-end. La semaine précédente, c'est à Tcharkamari, localité de la région de l'extrême nord camerounais, c'est 11 civils qui ont été tués lors d'une incursion du groupe. Léon Kungu, comment expliquer cette résurgence des attaques de Boko Haram alors qu'on croyait le groupe en déclin?
Oui, en fait, le groupe en déclin, disons le groupe en repli stratégique. En fait, il faut le dire, la force multinationale mixte était montée en puissance, avec notamment la subdivision du théâtre en 4 secteurs militaires, ce qui a permis au groupe de se réfugier, je dirais de se retrancher dans des zones totalement imprenables, c'est-à-dire les versants de Mont Mandara, la forêt de Sambisa et la forêt de Wadamaya. Mais ce qu'il convient de souligner, pourquoi ce regain de violence? Il faut quand même relever deux aspects fondamentaux ici. Donc, dans un premier temps, on peut parler des inattendus sociopolitiques et l'activation des conflits latents, notamment au Tchad, au Cameroun et au Nigeria. Comme vous le savez, au Tchad, la dévolution du pouvoir par les urnes étant impossible, les milices ont entrepris de conquérir le pouvoir central à partir du Soudan et le président Déby a été obligé de réaffecter les troupes qui jusque-là étaient mobilisées pour Boko Haram pour aller contenir le désordre dans le septentrion, notamment le nord-est, où les milices partent du Soudan pour aller vers N'Djamena. Mais aussi en ce qui est du Cameroun, vous savez, il y a l'ouverture d'un second front depuis 2016, à savoir les troubles dans la zone anglophone. Et une fois de plus, la hiérarchie militaire a été obligée de réaffecter ses troupes dans cette partie du pays et en créant des tranchées dont le contrôle est maintenant assuré par les comités de vigilance. Donc les comités de vigilance qui ont des armes tout à fait rustiques et qui ont notamment pour mission principale de renseigner les forces de l'ordre. Et toutes ces difficultés, que ce soit pour le Tchad et pour le Cameroun, ça laisse un vide. Voilà pourquoi Boko Haram ressort de son retranchement. Et pour le Nigeria également, qu'est-ce qu'on peut dire du Nigeria? Le Nigeria a tout simplement, à travers la montée en puissance de la force multinationale mixte, vouloir montrer qu'il a recouvré totalement le contrôle de son territoire, mais aussi sa souveraineté. Et ce qui a été vraiment assez, je dirais, ce qui a permis à ces différentes forces de prendre du terrain et de renverser le rapport de force, c'était le droit de poursuite. Or, une fois que la situation s'est stabilisée, le Nigeria a gelé le droit de poursuite.
ce faisant.
Alors, Léon Kogou, ce qu'on appelle le droit de poursuite, oui. c'est la possibilité pour une armée d'aller de poursuivre l'ennemi jusque en territoire étranger. Donc, pour les Camerounais d'aller au Tchad et vice versa.
Effectivement, des opérations transfrontalières, comme cela avait été décidé lors de la réunion sur la sécurité au Nigeria à Paris en 2014. Mmh. Ce sont ces opérations, notamment du Tchad et du Cameroun, qui ont permis au Nigeria de recouvrer totalement les territoires conquis par Boko Haram dans le Borno. Mmh. Et une fois de plus, ce droit de poursuite est gelé. Boko Haram est ressorti de ses retranchements pour pouvoir aujourd'hui mener des attaques qui sont assez déplorables. Mais le deuxième élément que je voulais souligner ici, ce sont les hésitations de la communauté internationale. Parce que comme vous le savez, la force multinationale mixte, elle recèle deux phases. C'est la phase 1 que je viens de vous dérouler, c'est-à-dire à savoir la projection des armées étatiques et la subdivision du territoire en quatre secteurs militaires. Mmh. Et à l'issue, c'est-à-dire ces opérations devaient donc permettre de dérouler la phase 2. Et effectivement, la phase 1 a montré son efficacité. La preuve, depuis 2015, on a une certaine accalmie qui aujourd'hui est fragilisée. La phase 2 devait donc permettre de dérouler les opérations civiles, oui. notamment les opérations de police et de gendarmerie. Mais, comme vous le savez, le dossier a été ficelé par la commission du bassin du lac Tchad. Il a été avalisé par le conseil de paix de l'Union africaine et il a été envoyé au Conseil de sécurité des Nations Unies. Le rôle du Conseil de sécurité allait être tout à fait simple, c'est-à-dire vérifier que les objectifs de la force multinationale mixte sont conformes à la charte 52 des Nations Unies, c'est-à-dire qui voudrait que les institutions sous-régionales mènent des missions de maintien de la paix. Mais depuis avril 2015, que le dossier a été déposé au secrétariat général, rien n'a abouti.
Vous êtes en train de dire, Léon Kungu, que plusieurs pays africains ont mis en place, voilà, on a effectivement cette phase 1 de cette force multinationale mixte qui devait être poursuivie par une phase 2, et que finalement cette phase 2 n'a jamais eu reçu l'aval de l'ONU, et qui est aval nécessaire pour être démarré, c'est bien ça?
Effectivement, c'est-à-dire on attendait de l'ONU le vote d'une résolution qui allait donner à la force non seulement sa légitimité, mais surtout les moyens d'action. Oui. Or, comme vous le savez, jusque-là, le Tchad est financé, tout comme le Nigeria, à partir des recettes du pétrole. Et depuis un certain temps, le pétrole connaît une chute des cours sur le marché international. Tout ceci conjugué, donc, ça rend très difficile aujourd'hui les modalités de lutte contre Boko Haram, qui reprend progressivement du poil de la bête.
En fait, les États manquent d'argent, si on a bien compris, Léon Kungu. Oui.
Il faut les moyens pour dérouler la phase 2. Il se trouve que les États aujourd'hui n'ont pas ces moyens parce que certains ont plus d'un front à pouvoir financer.
On va donner la parole aux auditeurs. Merci beaucoup, Léon Kungu, d'avoir ouvert cette émission. Restez avec nous. Je rappelle le numéro pour intervenir, 33-1-55-07-58-00. 33-1-55-07-58-00. Alors, dans un instant, on va écouter Martial, mais je vais privilégier Christian qui nous écoute depuis le Tchad. Christian, bonjour. Oui, voilà, c'est pour ça que je voulais privilégier Christian, parce que j'étais pas sûr que...
Chaque fois qu'on regarde la ligne de réseau, ne passe pas.
Ah, oui, on vous entend là, Christian, bonjour.
À chaque fois, je suis coupé quand je veux intervenir.
Vous croyez que c'est un lien?
Oui, quand je suis prêt pour partir à l'émission, la connexion avec Paris ne passe pas.
Bon, là, ça passe, Christian, on vous entend bien. Bienvenue dans le journal des auditeurs.
Ouais, je suis disponible, je dois patienter.
Bon, je ne sais pas si vous avez entendu Léon Kungu, notre invité, qui expliquait un peu les diverses raisons. Il semblerait, selon notamment la FIDH, que le Tchad soit actuellement sous une grande menace de Boko Haram. Vous entendez, Christian?
Oui, j'en dis.
On craint même des attentats à N'Djamena. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel regard portez-vous là-dessus?
Oui, mais à chaque fois qu'on regarde la ligne de réseau, ne passe pas.
Ouais, alors, en plus, ça va être, je ne suis pas sûr que Christian nous entende bien.
Bon, je suis coupé quand je veux intervenir.
Oui, c'est marrant, j'ai l'impression qu'il répète la même chose. C'est pas grave, effectivement, les lignes sont pas très bonnes. Merci Christian. On va écouter Martial. Martial, bonjour.
Bonjour Stéphanie.
Bonjour Martial.
Bonjour à tous les auditeurs.
Alors, vous avez vu, hein, l'extrême nord du Cameroun est plutôt touché par ces attaques. Et notre invité, Léon Kungu, disait le problème pour le Cameroun, c'est qu'en plus, il y a un deuxième front qui s'est ouvert avec les zones anglophones.
Oui, ben, écoutez, je salue déjà le brillant exposé et succinct de votre invité. Mais je voudrais dire déjà ceci, c'est que je commencerai d'abord par une généralité pour dire qu'on a comme l'impression que le monde a du mal à se tirer d'affaire avec le terrorisme. Bon, secondo, on s'aperçoit que nos États, c'est-à-dire les États africains et éventuellement le Cameroun, souffrent d'un problème de moyens. Il y a un manque de moyens qui permettent de lutter efficacement contre le terrorisme. Bon, troisièmement, je voudrais dire que, vous savez, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Je pense que, pour moi, la peine de mort, elle est à remettre en place et à remettre en place pour ce cas d'exception, pour punir ceux qui commettent même ces actes de terrorisme. Pour moi, je vais vous dire sincèrement, le terrorisme n'existe pas. C'est du grand banditisme. C'est-à-dire que c'est un groupe de petits opportunistes qui raquettent les populations, qui harcèlent les gens, et puis qui, parce que je suppose qu'ils n'ont pas une idéologie réelle. L'idéologie, c'est laquelle? Bon, et quand vous voyez un peu ce qui se passe au Cameroun, dites-moi un peu, au nord, quand on regarde qui vit au nord, c'est des paysans, c'est des gens qui ont à peine même une ampoule électrique chez eux. Mais pourquoi on en veut à ces gens-là au point de les tuer matin, midi, soir et tout le temps? On se demande donc qu'est-ce que ces gens-là cherchent? Et sur un plan plus global, aujourd'hui, c'est un désordre total. Les mosquées sont attaquées, les églises sont attaquées, les rues sont attaquées, mais on se demande qui cherche qui dans la réalité.
Donc, est-ce que c'est la population martiale vraiment qui est attaquée ou plutôt l'État et les symboles et ses symboles?
Mais justement, donc, vous me direz que dans le Nord, quel symbole de l'État il y a au Nord? Bon, que ces bandits-là aillent s'exercer dans les capitales parce qu'ils vont attaquer un monument, parce qu'ils vont attaquer ceci, ben là, on va dire, ben voilà, ils ont une idéologie. Mais quand vous allez vous attaquer à des gens qui n'ont que des troupeaux, des troupeaux, de leurs champs, ainsi de suite, mais on se demande ce que veulent les gens. C'est un peu comme si vous agressiez quelqu'un qui n'a rien dans ses poches. On se demande exactement à quoi rime tout ça. Donc, moi, je dis, nos armées n'ont pas vraiment des moyens efficaces et sophistiqué pour pouvoir combattre ce phénomène-là. Et je dis, à problème exceptionnel, mesure d'exception, la peine de mort devrait être instaurée pour ce genre de situation.
Alors justement, voilà. Martial, puisque vous parlez des armées, on a plusieurs rapports d'Amnesty International qui pointent du doigt justement les atteintes aux droits de l'homme commises par les armées nationales et principalement aussi par l'armée nigériane. Et dans ce rapport, il y a même des gens, ces populations que vous décrivez, notamment dans cette zone plutôt paysanne, des gens qui disent « Nous, on fuit pas Boko Haram, on fuit plutôt l'armée ». Comment vous réagissez à ça? Est-ce que finalement, l'armée n'a pas encouragé ce phénomène et la complicité de la population?
Ben, vous savez, je vais vous dire une chose. C'est à la mode aujourd'hui que d'accuser les gouvernements. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'un gouvernement qui a pour mission, et je dis que ça, cela va de soi de tous les gouvernements du monde. Tous les gouvernements du monde sont élus sur la base de protéger, d'assurer la sécurité de leurs citoyens. Donc, comme il est de tradition aujourd'hui, quand on accuse, quand on veut se débarrasser de son chien, on l'accuse de rage. Donc, aujourd'hui, quand ces populations-là sont victimes de certaines choses, vont plutôt accuser les gouvernants parce qu'on veut bien se séparer des dirigeants et en oubliant le problème là où il se trouve réellement. Donc, ce que je peux vous dire à ce sujet, c'est que ces populations aujourd'hui sont mises à contribution, mais c'est un peu comme si on allait les offrir à la mort. Parce que si l'ennemi en face, il est bien équipé, Que pouvez-vous si vous n'avez rien? Et là, tout à l'heure, j'entendais parler des armes rustiques, mais dites-moi un peu, quand quelqu'un, lui, a des lance-roquettes et vous avez un fusil de je ne sais pas quoi, mais vous ne luttez pas à armes égales. Donc, je dis tout simplement que il faut équiper les armées, se doter, parce que la vidéosurveillance, par exemple, combien de commissariats dans ces pays-là, le Nigeria, le Cameroun, ainsi de suite, sont équipés de vidéosurveillance? Alors, ça ouvre la porte à tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que le bonhomme qui arrive s'infiltre tranquillement, pas de moyens de détection de métaux, de ceci, de cela, fait ce qu'il a à faire et repart. On voit les effets, mais on n'a pas pu les anticiper. Donc, c'est pour ça que je dis aujourd'hui que c'est très compliqué, parce que nos armées sont encore fragiles. Pour peu que ces armées soient obligées d'intervenir sur plusieurs fronts, on constate leur fragilité.
Merci Martial de votre intervention. Martial qui dit finalement, voilà, il faut mieux équiper bien sûr les armées. Et Martial, vous avez dit également que vous étiez plutôt favorable au rétablissement de la peine de mort. 33 1 55 07 58 00 pour réagir. 33 1 55 07 58 00. Léon Kungu, justement, puisqu'on parlait de la peine de mort, face à la menace, apparemment le Tchad d'ailleurs est plutôt ce dont je voulais parler avec Christian tout à l'heure, le Tchad est plutôt menacé clairement en ce moment, des cellules ont même été démantelées, des membres de Boko Haram accusés à N'Djamena même. Et face à cette menace, le Tchad veut renforcer son arsenal juridique de lutte contre le terrorisme. Il a prévu notamment d'abolir la peine de mort. Est-ce que ça peut vous sembler une solution de renforcer son arsenal juridique face à cette nouvelle forme de violence, comme pour réagir à ce que disait Martial?
En fait, la peine de mort, je ne sais pas si lorsqu'on parle d'un combat asymétrique, c'est-à-dire si cela se justifie, si cela a un sens, ne l'oubliez pas. C'est-à-dire quelle est la finalité d'un djihadiste? C'est mourir en martyr. Donc, c'est quelqu'un qui a un rapport tout à fait, qui n'est pas le nôtre, à la mort. Donc, je pense que la difficulté des États ici, c'est-à-dire c'est que les États ne peuvent pas agir comme ceux-là dont ils sont appelés à combattre. Parce que j'ai tantôt parlé des difficultés aujourd'hui de ces pays-là à obtenir une résolution des Nations Unies pour qu'on leur confère les moyens de lutte. Mais il faut quand même comprendre que ces pays ont contre eux une forte diplomatie des organisations non gouvernementales.
Alors, on parlait des rapports d'Amnesty qui a encore fait un rapport, on a entendu dans le journal.
Human Rights Watch, c'est-à-dire qui ont démontré que l'armée nigériane tirait sur les civils et que l'armée camerounaise faisait des exactions, c'est-à-dire notamment des exécutions sommaires. Donc c'est tout cela qui fait qu'un pays comme les États-Unis aujourd'hui, conformément à l'amendement Patrick Léahi de 2008, ne peut plus, je dirais, apporter une aide significative sur le plan militaire au Nigeria. Donc il y a tous ces aspects que les États doivent prendre en compte pour mener cette lutte. C'est-à-dire qu'il faut mener la lutte avec efficacité, mais se mettant dans la poursuite d'un État qui est appelé à respecter certaines conventions internationales.
On a encore, je vous dis tout à l'heure, dans le journal, on a entendu, Amnesty International a encore fait un rapport pour dénoncer cette fois-ci les agressions sexuelles dont sont victimes les prisonniers, et principalement les prisonniers de Boko Haram au Nigeria. Peut-être une autre réaction au côté banditisme, Léon, et au projet politique de Boko Haram. Martial, tout à l'heure, disait finalement, ce sont des grands bandits, il n'y a aucune idéologie. Nous avons un auditeur, c'est IB, qui nous dit sur WhatsApp, dit Boko Haram n'est autre qu'un groupe de voyous avec à sa tête des personnes qui se remplissent les poches et qui ne font que terroriser les populations. C'est ça le projet Boko Haram? S'enrichir?
En fait, comme on l'a toujours dit, dans le septentrion du Cameroun, plusieurs activités se recoupent. Et à un moment donné, Boko Haram peut être un label. En fait, puisqu'on parle vraiment de démarches crapuleuses, on a pu voir que certains rançons, c'est-à-dire qui avaient été payés, l'argent revenait même entre des poches des gens qu'on rencontrait parfois à Yaoundé. C'est pour vous dire que, c'est-à-dire, Boko Haram a créé des conditions qui permettent beaucoup d'activités crapuleuses. Vous avez des gens qui empruntent le logo Boko Haram, qui enlèvent, qui reçoivent des rançons, peut-être parce qu'ils n'ont pas la logistique nécessaire pour pouvoir garder ces otages, ils les remettent à Boko Haram et par des arrangements d'ordre crapuleux, chacun y trouve son compte.
Alors, quand tout à l'heure Martial disait finalement c'est la population, ces pauvres paysans sont victimes, j'accuse personne et j'accable personne, mais finalement c'est pas si évident que ça. Il y a une sorte aussi de complicité par certains, c'est ce que vous expliquez.
Mais ce qu'il convient de souligner ici, c'est que en fait, il y a Boko Haram, ce n'est pas de l'abstrait. Ce sont des individus qui ont des cousins, qui ont des parents. Du point de vue sociologique, ils ont un ancrage tout autour du lac Tchad. Donc la difficulté pour les populations, c'est qu'elles sont finalement entre deux feux. Si vous prenez l'exemple du Cameroun, le Cameroun applique ce qu'on appelle le concept de défense dite populaire. Cela veut dire que la défense, c'est une affaire de tous, c'est-à-dire les populations civiles doivent notamment apporter du renseignement aux forces militaires. Or, quand vous apportez des renseignements, par la suite, il faudrait vous attendre à des représailles. Parce que l'armée arrive lorsqu'elle reçoit un renseignement, le plus souvent, en fait, procède à des arrestations ou alors va peut-être jusqu'à donner la mort. Mais cette armée n'est pas permanente auprès des populations. Elle va rentrer dans ses bases arrières. Et c'est donc à ce moment que les représailles interviennent. Donc c'est toute la difficulté des populations qui sont vraiment, c'est-à-dire...
prises entre deux feux.
Entre deux feux, c'est-à-dire la représaille des djihadistes, mais aussi, je dirais, pourquoi pas, c'est-à-dire lorsqu'on estime qu'elles ne collaborent pas suffisamment...
Les représailles de l'armée.
De l'armée.
On voit ça aussi malheureusement dans d'autres pays. Merci Léon de vos réponses. On a bien compris hein, que finalement l'ONU, le Conseil de paix et de sécurité de l'ONU n'avait pas validé hein, cette phase 2 de la force multinationale mixte, était notamment due aux accusations hein, d'atteinte aux droits de l'homme envers les armées. On va retrouver Archéduc qui est également du côté du Tchad. Archéduc, bonjour.
Bonjour,
bienvenue. On n'arrive pas à vous joindre souvent, vous laissez souvent votre numéro. Malheureusement, c'est vrai que les lignes ne sont pas toujours très bonnes. Bienvenue, Archéduc. Vu du Tchad, on comprend que Boko Haram est parti pour durer, pour reprendre le titre de l'essai de notre invité.
Boko Haram, pour moi, un groupe de progressistes et télévisés du monde et du monde d'Afrique. Des stratégies qui...
Non, malheureusement, la ligne va pas être super, Archéduc. Hein. Désolé, on va peut-être essayer de vous rappeler, on vous entend pas. Hein, mais sinon, pour réagir, 33 1 55 07 58 00, 33 1 55 07 58 00. Simon, bonjour.
Oui, bonjour, Stéphanie.
Bonjour, Simon, bienvenue dans merci, le journal des auditeurs.
Merci bien. Ce qui me fait très très mal au cœur, tous les intervenants ne parlent jamais de gouvernance sur le continent. Moi, je vous donne un exemple.
L'invité en début, hein, c'est passé. On a bien compris ce que vous voulez dire. Léon a parlé d'inattendu socio-économique.
Mais
tout
oui,
à l'heure.
D'inattendu socio-économique. Ils étaient où? C'est les mêmes qui sont là depuis 50 ans. Et aujourd'hui, on va pas. Normalement, ça doit être balayé. Il doit être viré. Et Paul Biya aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est où? Il travaille. Et vous allez voir dans tous les villages là, dans le pays, dans tout Nigeria au Togo, au Bénin, etc. Vous allez voir les villages. Ils ont pas d'hôpitaux. Ils ont rien. Ils ont pas d'eau. Il y a rien. Il y a pas de gouvernance. Ils sont dans la capitale et les militaires travaillent pour eux, ils travaillent pas pour la population. Bon, comment on peut s'étonner? Donc moi j'ai remarqué une chose, les gens ne parlent jamais de la gouvernance. Et Paul Biya, il n'a pas été élu par le Camerounais. Il y a plein de présidents qui n'ont pas été élus. Donc comment il va travailler pour ce peuple-là? Et tu ne peux pas manifester. On t'arrête, on te met en prison. Donc aujourd'hui, moi, je pense que il est logique que Boko Haram perdure. On peut armer jusqu'aux dents tous ces militaires, etc., ils peuvent pas gagner. Ils peuvent pas gagner parce que la
population... Vous dites finalement c'est l'absence de l'État, Simon, si je comprends bien. Bien sûr.
Oui, l'État ne font rien. Pourquoi on ne dit pas? Tous les ministres travaillent pour eux. Ils sont ici, ils ont acheté les belles maisons ici. Ils font rien. Ils font rien. Donc là, on peut pas dire que voilà, Boko Haram ne peut pas vivre. Parce que là, aujourd'hui, Boko Haram, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il propose aux petits pauvres, voilà, vous nous suivez et vous allez avoir de quoi...
Une moto, un peu un billet, tout ça.
Voilà, donc à partir de là, on peut pas gagner.
C'est très
clair. Tant qu'il n'y a pas des élections claires et nettes et qu'on puisse élire ceux qui doivent nous gouverner, mais c'est pas possible. C'est pas possible. La division vient de là.
Merci Simon de votre analyse, Simon, qui estime que c'est la malgouvernance et l'absence de l'État qui encourage Boko Haram. Alors il y a un truc qui sonne, je sais absolument pas où c'est. Je suis désolée pour le son. Merci beaucoup, Simon. Léon Kungu notre WhatsApp, sur la WhatsApp d'Africa Radio, il y a un auditeur. Alors est-ce que je vais voir son prénom? Je suis pas sûre. C'est Enoch. Qui nous dit bonjour. Amnesty International, à travers ses rapports, soutient Boko Haram. Et c'est ce qu'on lit un peu parfois dans la presse nigériane aujourd'hui, après le nouveau rapport d'Amnesty. Hein, dans la presse nigériane, un journal nigérian qualifie d'Amnesty de deuxième groupe terroriste. Comment expliquer que finalement que les rapports d'Amnesty soient très mal vécus, par notamment au Nigeria?
En fait, il faudrait comprendre que chacun est dans son rôle. Je ne sais pas, c'est-à-dire si Amnesty ne condamne pas les exactions, qui le fera? Et il faut dire quelque chose de fondamental. Au moment où l'État n'avait plus cité, c'est-à-dire droit de cité dans le Borno, il n'y a que ces organisations non gouvernementales qui y faisaient des tours, c'est-à-dire qui étaient présents aux côtés des populations. Ces organisations... leur rôle, c'est de protéger le droit, je dirais, indifféremment, que ce soit lorsque ce sont les forces de défense qui sont victimes des actions. Les organisations le soulignent aussi, c'est-à-dire pour demander aux autres de respecter ne serait-ce que le droit, c'est-à-dire de l'homme, de respecter les vies. Et lorsque c'est les forces gouvernementales qui le font, elles condamnent également. Parce qu'il faut le comprendre, c'est-à-dire que Boko Haram a atteint un degré de cruauté, notamment dans le Borno, à des moments vraiment assez difficiles, surtout en 2014, où on arrivait, on brûlait tout un village. Et les gens veulent des représailles à l'immédiat, c'est-à-dire en quelque sorte l'institution de la loi du talion. Or, je le dis une fois de plus, la mission d'un État est assez difficile, c'est-à-dire un État ne peut pas se comporter, c'est-à-dire comme ces acteurs qui n'ont aucune loi, aucune foi. Donc Amnesty International est aussi là pour dire à l'État, vous êtes d'abord un État, vous devez prendre du recul, vous devez certes, c'est-à-dire mener la lutte, mais cette lutte doit respecter les lois de la République et les conventions internationales. Voilà pourquoi, pour le citoyen lambda, ces organisations internationales, c'est-à-dire, passent pour être, je dirais, peut-être laxistes, mais aussi, c'est-à-dire, passeraient pour être tout à fait complices. Voilà.
C'est très clair. Merci beaucoup, Léon Kungu, d'avoir éclairé, d'ailleurs, sur cette situation et sur ce groupe, Boko Haram. Léon Kungu, je rappelle que vous êtes un docteur en sciences politiques. Et puis, je le disais, vous êtes notamment l'auteur de nombreux essais sur le groupe Boko Haram. Le dernier s'intitule Boko Haram, parti pour durer, et c'est publié aux éditions L'Harmattan. Merci beaucoup, Léon Kungu. Merci à tous de votre participation. N'hésitez pas à continuer le débat sur les réseaux sociaux, hashtag JDA, ou sur le répondeur d'Africa Radio au 33 1 55 07 58 05. On se retrouve demain, mardi, pour une nouvelle édition du Journal des Auditeurs. Cette fois, c'est sûr, nous parlerons du renouveau des compagnies nationales aériennes. Prenez soin de vous et de vos proches à l'écoute d'Africa Radio, la seule radio africaine. À demain.